Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Alors on continue. L'autre côté de la règle, c'est aprasim. Prasim, c'est-à-dire, comment il appelle ça prasim? Alors attendez. Voilà, le pras. Alors le pras, c'est-à-dire la petite récompense, les petits cadeaux, oui. Pras, en hébreu, il nous donne la définition dans son livre. Il dit, pras, c'est kol erech chomri she'ayeled mekabel ketagmul al ma'asa ve'itnaaguto. Ça veut dire quoi? C'est toute rétribution matérielle que l'enfant reçoit en rétribution à son comportement. D'accord? Ils disent tamid bitui les sviut retzonam shel orav. C'est toujours une expression du contentement de ses parents. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle pras nichumim, le cadeau de consolation. Il dit le cadeau de consolation, c'est quelque chose qui embrouille beaucoup un enfant. Un enfant dans sa perception, le petit cadeau, la petite récompense sera toujours liée à une rétribution par rapport à un comportement positif qu'il a eu. D'accord? Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il raconte une petite histoire dans son livre où un enfant avait eu une mauvaise note et ses parents, pour le consoler, ils lui ont acheté un petit pras. Et l'enfant, la fois d'après, il a eu encore une mauvaise note. Et puis du coup, il a eu plein de mauvaises notes. Et la mère, elle a parlé, elle a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est new age, vous voyez, c'est new truc. Complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Rabbi Jacobson, il a dit ça, c'est parce que le parent n'a pas fait l'effort de transposer à la tête d'un enfant. Un enfant, il ne peut pas comprendre qu'on lui achète un cadeau quand il a échoué. Il dit, si déjà il fallait lui apporter un soutien, il fallait lui faire un grand chibouk, le soutenir par de l'affection, par de l'affectif, pas par du matériel. Vous avez compris l'idée? C'est pour ça que le pras sera toujours l'expression du contentement des parents. Pour un enfant, hein, dans la langue d'un enfant. D'accord? Alors, on pose souvent la question, le pras est-il un outil chinouchi? Beaucoup de pédagogues posent cette question. Le pras est-il un outil de chinour? Nous répondons immédiatement. Non. Ça fait partie de la hafala, ça n'a rien à voir avec le chinour. C'est un outil qui va nous permettre, éventuellement, d'arriver à un stade où on va pouvoir faire du chinour. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous illustrer ça, Bezrat Hashem. Donc ça veut dire que c'est un outil transitoire, ça ne sera jamais un outil de chinour pur, c'est un outil de hafala, c'est un outil de pilotage. D'accord? Il faudra compléter. Non, c'est ce que je dis. Je dis, ce n'est pas. Certains pédagogues demandent est-ce que c'est un outil éducatif, un outil de chinour, le pras? La réponse, elle est évidemment que non, puisque le pras fait partie du registre pilotage. Maintenant, il va nous permettre d'arriver à une situation où on va pouvoir faire de l'éducation. Faire de l'éducation, ça veut dire encourager, valoriser. Ça, vous commencez à capter l'idée? Oui. Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous faites un miftsa à la maison. Vous mettez sur le frigo la feuille avec les gommettes, oui? Alors vous mettez, je ne sais pas, 30 jours, 40 jours, je ne sais pas comment vous payez chez vous, et il va avoir une récompense au 40e ou au 30e jour, je ne sais pas, oui? Alors, toute cette entreprise est afala. Toute cette entreprise, c'est du pilotage. Il faut être très clair, d'accord? Si tu t'arrêtes là, tu n'as fait que du pilotage. Si tu veux compléter par du chinour, qu'est-ce qui va se passer? Le jour ou même pendant le miftsa, mais en tout cas le jour où tu vas remettre le prix, le cadeau, c'est pas le projecteur sur le cadeau qu'il faut mettre. C'est lui faire tout un tekes, toute une histoire et toute une simra, que pendant 40 jours, il a été mitgaber, ou il a été mevater, ou je sais pas ce que vous voulez lui faire travailler, ou il a été à l'heure, ou il a été... C'est sur ça qu'il faudra mettre toute l'emphase. Et là, tu es en train de faire du chinour. Mais si tu mets toute l'emphase sur le cadeau, et c'est très naturel de le faire. C'est très naturel de... Je vais vous dire pourquoi. Parce que le parent, il veut que l'enfant, il se rende compte qu'est-ce qu'on lui a acheté quand même. Hein, il faut qu'il ait la valeur des choses. Mais pas maintenant, c'était pas le moment. Pas du tout. Si déjà il doit avoir la valeur des choses à ce moment-là, qu'il ait la valeur de ses accomplissements rouhanim, pas homrim. Spirituel et pas matériel. D'accord? Ça, c'est un exemple que je vous donne très, très classique, qu'on peut retrouver tous les jours.
Si l'enfant, il a raté le miftsa.
Qu'est-ce que ça veut dire rater le Mifta? Ils ont arrêté le Mifta, comment ça il va rater?
Bah,
ah, il s'est arrêté en cours de route.
Il n'y a pas eu Maspik des gommettes sur le...
Ah, parce que vous faites ça en 30 jours. Ah oui, c'est drôle, j'ai jamais fait comme ça. Non, moi j'ai fait quand il a réussi 30 fois, il aura ça. Même si ça s'étale en 42 jours ou 53.
Pendant les vacances, alors on doit faire ce qu'il a le matin. Les vacances sont finies, il est fini.
Ah oui, je comprends. Oui, c'est drôle, j'avais pas pensé comme ça. Dans ces cas-là, alors peut-être qu'il faudrait quand même, sur ce qui a été fait, le rétribuer. Parce qu'autrement, il aura la sensation que ce qui compte, c'est tout ou rien. Que ce qui compte, c'est le résultat final. Alors que nous, dans notre système, jusqu'à fatigue, c'est l'effort qui compte. Donc il faut que ça soit en regard avec ça. D'accord ? Alors, il nous dit, par rapport au prasim, quelques petits compléments. Il y a le pras convenu d'avance et le pras surprise. Celui qui est convenu d'avance, c'est le Mifta, par exemple, d'accord ? Vous lui dites, voilà, au bout de tel temps de jour, je t'achète la petite voiture, le truc, ou je t'achète la poupée, ou le landau, ou je ne sais pas quoi, oui, ce que vous achetez, ou le paquet de bambins, hein, pourquoi pas. Ce que vous promettez. Alors, ça, c'est le pras convenu d'avance, oui ? Et il dit, il faut réserver le pras convenu d'avance que pour certaines situations spécifiques. C'est quoi ces situations ? C'est les situations où l'enfant, il doit relever un défi particulier, où il doit surmonter une difficulté particulière, où pour lui c'est très dur de faire cette chose-là, c'est le contexte qui convient à donner un pras convenu d'avance. Maintenant, dans le fonctionnement journalier de la discipline, le pras n'a pas sa place. Vous comprenez ? On m'a demandé une fois, est-ce qu'on peut leur donner un peu la carotte, là, un petit peu, pour qu'ils bougent légèrement ? Alors j'ai dit, si sur un truc ciblé, il a du mal et on veut le motiver, oui. Mais si sur toute la maharechet, la mishmat, que tout le système de la discipline journalière, il faut payer des prasim, ça ne va pas. C'est une déformation. Il dit « zepogea ba mishmat atzma ». C'est une atteinte aux règles de la discipline. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ensemble que la discipline, pourquoi on doit obéir ? Parce que c'est normal d'obéir à l'autorité, pas parce qu'elle paye. Je vous dis, c'est les principes de base. Après, bien sûr que ça va demander des immunim, des entraînements pour l'enfant. Mais les principes doivent être posés clairement au départ. Vous comprenez l'idée ? Donc, le pras convenu d'avance, il convient seulement dans ces cas-là. Dans des cas où il doit relever un défi, où il doit dépasser une difficulté, ou dans des cas où on lui demande de faire quelque chose qui est totalement facultatif et qu'il n'est pas du tout obligé de le faire. D'accord ? Il nous dit, il faut donner le pras le'achar ha'ma'aseh. Il faut donner le pras après que l'enfant ait fait. Des fois, par exemple, le parent, il est généreux, il veut « je te paye d'avance ». Non, non, non. C'est pas qu'on veut être dur en affaires, mais c'est que pour son bien, il faut que la chavaya de recevoir le pras, elle vienne après, pas avant. D'accord ? Ce sont des petits détails, mais c'est important de le savoir. Maintenant, le pras surprise. Il dit « c'est encore beaucoup, beaucoup plus efficace que le pras convenu d'avance, comme vous pouvez imaginer. Pourquoi ? Parce que le pras surprise, il a dit, pour encourager un enfant, il dit que le côté inattendu, il va alimenter chez l'enfant la sensation qu'en fait, même quand il ne s'en rend pas compte, ses parents, ils font attention à ce qu'il fait. Que ses parents, ils le suivent dans sa progression et dans son évolution. Il raconte une histoire dans le livre d'un adulte qui faisait le espèce de sa maman. Et il écrivait avec des larmes. En se rappelant, il disait, quand il était petit, il avait beaucoup de mal à se lever à l'heure. Il avait un mal fou à se lever à l'heure. Et ils ont essayé comme ci, comme ça, mais vraiment, il avait un mal fou. Il se faisait gronder à l'école, rien n'y faisait. Et puis, à un certain moment, il a essayé il en avait assez de prendre des gronderies, il a essayé de faire quelque chose et de se prendre en main. Il a réussi pendant une semaine, il a réussi pendant 10 jours à peu près, et après, c'est reparti. Mais il a trouvé... Et puis il s'est un peu découragé, il s'est dit voilà, j'y arriverai pas. Et puis le jour où il était découragé, justement, il a trouvé sous son oreiller un petit mot, un petit chocolat, avec un petit mot juste très très court. Il y avait marqué La Gibor Sheli, me ima ani ohev et otra. Pour mon Gibor, ça veut dire pour mon héros, si je peux dire comme ça, de maman qui t'aime. Il a dit de ce jour-là, il a réalisé rétroactivement que maman, elle était toujours là. Même quand elle disait rien. Elle était là, en fait. Elle observait ses efforts. Elle a validé ses efforts. Vous avez compris? Le facteur surprise, il est merveilleux. Parce que là, on sort des sentiers battus. On sort du cadre bureaucratique. Tu as fait, je te donne. Allez, je te donne en donnant. Fchar, on peut aussi faire ça. Dans certains cas, il faut le faire. Mais c'est vrai que le pras inattendu, surprise, pour encourager un enfant sur quelque chose, c'est extraordinaire. Tester cette chose-là, c'est extraordinaire. Ça leur fait plaisir, même un petit rien. Même pas besoin d'investir quelque chose de compliqué, un petit rien. Rien que parce qu'il est fait par surprise, il prend une valeur complètement décuplée. Quoi ? Parce qu'il est sentimental, exactement. Alors, il dit c'est également très important de donner de temps en temps des petits cadeaux aux enfants pour rien.
C'est à condition qu'on n'en ait pas parlé pendant 3 heures juste avant.
Là, en l'occurrence, c'était quelques jours, elle n'avait rien dit, elle l'a observé. Et elle avait décidé.
Lève-toi, elle a pu mettre sur le coussin.
C'est vrai. Parfois, c'est les risques qu'il faut savoir prendre d'aider sans assister. C'est pas du tout facile, un yodat. Il dit, le Rav également, que c'est très important de donner de temps en temps des petits cadeaux aux enfants sans raison. Alors, cadeau petit, il faut que ça soit petit. Pourquoi ? Parce que si c'est un trop grand cadeau, la valeur du cadeau voile l'essentiel qui est l'intention. Donc il faut d'affaire que ce soit des petites choses. Et il faut que ce soit, oui, sans raison. Et s'il dit, pourquoi ? Parce que je t'aime, parce que je veux te faire plaisir. Comme ça, sans raison. Pas parce qu'il a produit quelque chose, pas parce qu'il a produit une prestation. Et c'est très drôle, parce que dans son livre, le Rav, il a imprimé un témoignage, une question qui a été posée, d'une dame qui dit, voilà, j'étais dans un cours de chinour pendant quelques semaines, et il y a quelque chose qui a été dit, mais ça m'interpelle, je voulais avoir votre avis. Elle dit, il était dit là-bas qu'il faut habituer les enfants à leur donner des rétributions à la suite d'un effort ou à la suite d'une production de quelque chose, parce que si on leur donne pour rien, on les habitue pas à ce que dans la vie, ben, pour avoir des choses, il faut fournir. Le Rav, il a répondu, c'est une ta'ana complètement invalide. Parce que s'il y a bien un endroit où il doit recevoir de l'amour inconditionnel et de la considération inconditionnelle, c'est à la maison. Alors la vie, après, elle va lui prouver qu'effectivement, il faut qu'il produise pour avoir. Il va y avoir d'innombrables exemples qui vont lui apprendre dans la vie qu'effectivement, tant qu'il ne se prend pas en main, il ne fait pas les choses, il n'y aura pas de retour. Mais au moins qu'à la maison, il est ce creuset d'inconditionnalité. Il dit parce que justement, dans des foyers où c'est comme ça la ligne qui a été décidée, qu'on ne donne qu'en résultat de quelque chose, il dit c'est là-bas où se sont développés justement kipouar rikshi, carence affective. Comment il définit ? Il donne une définition justement de ça. Il faut synthétiser. Il est kipouar rikshi, c'est troucha matmedet shel cheser bilti mugdar. C'est une sensation permanente de manque non défini. Et ça se traduit par l'enfant qui est insatiable, et on croit qu'il est matérialiste, on croit que... Non, c'est kipouar rikshi. Il a besoin de plus d'affectif. Comprenez l'idée ? Donc il a dit justement, dans les cas où on budgète comme ça les récompenses seulement quand l'enfant a fait quelque chose, on alimente chez l'enfant la sensation de conditionnalité dans l'amour. Et c'est ça qui est, le favorisant numéro un de kipouar rikshi, de carence affective, et justement de besoin matériel décuplé, parce que ça devient un substantif du besoin affectif. D'accord ?
Et le pras, on peut donner de l'argent, certains changent aussi les cadeaux.
Alors justement, c'est marrant que vous dites ça, c'est exactement la suite de notre idée. Oui, c'est possible, mais c'est sûr que c'est mieux de donner des cadeaux et des objets. Que l'argent. Je vais vous dire pourquoi. Laura lui dit, un enfant, il peut recevoir beaucoup et être en sensation de manque. Et un autre enfant, il peut recevoir pas tant que ça et être tout à fait rassasié. Parce que ce qui compte, c'est pas combien je lui donne, c'est pas qu'est-ce que je lui donne, c'est comment je lui donne. Donc on a vu déjà un premier indicateur, que quand nous on prend l'initiative et on le surprend, c'est un facteur de satiété, déjà. Ça, c'est une première chose. Maintenant, le Rav, il évoque comme ça, mais très rapidement, je rentrerai ça peut-être plus tard, dans les études plus tard. Il a dit, l'ambiance financière à la maison, j'ai appelé ça comme ça, hein, je ne savais pas comment l'appeler autrement, ouais. Il dit, c'est ça qui va déterminer si l'enfant il ressent un manque ou pas, ce n'est pas le compte en banque. Alors je sais, ça paraît très facile à dire, mais je vous raconte une toute petite histoire que le Rav raconte sur son enfance. Le Rav dit qu'il a grandi à Yerushalayim dans la période de famine. à Jérusalem. Il s'est évanoui de faim plusieurs fois à l'école. Bon, aujourd'hui, quand on le voit, Baruch HaShem, il n'a pas du tout l'air comme ça. Mais c'était leur réalité. D'accord ? Ils étaient dans une petite maison de, je crois, 2 pièces. Et je ne sais pas combien d'enfants ils étaient, mais une famille nombreuse, Baruch HaShem. Il dit, et jamais, jamais j'ai senti de sensation de manque. Jamais. Qu'est-ce qu'on mangeait, il a dit, du pain noir et de l'huile d'olive et des tomates écrasées. Il dit, c'était d'ailleurs très très bon, c'est dommage qu'on ne mange plus ça. Il a dit, des choses toutes simples, mais jamais, jamais j'ai ressenti de manque. Il dit, d'abord, je veux vous dire que dans mon enfance, il dit, nous enfants, nous n'avions aucun rapport avec l'argent de façon directe. Premièrement, quand on achetait des choses, il n'y avait pas de supermarché, on allait au Macolette. Le Macolette, l'épicerie du coin, il dit, maman nous y envoyait, on ne payait jamais avec de l'argent. Rochmim, on marque sur le carnet. Oui. Et alors quand l'épicier voulait dire, il est temps que tes parents payent, il disait jamais il faut payer ou il faut amener de l'argent. Il disait, Isaïa Mila Gassa, il dit. Quand j'étais petit, le mot kesef était un mot grossier. On ne disait pas ce mot-là. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle? Et il a dit, et qu'est-ce qu'il disait l'épicier? Il disait, dis à maman que la feuille est pleine. J'ai plus où marquer. C'est tout. Et donc il disait, maman, il a dit que la feuille est pleine. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle va s'occuper de régler par ailleurs. Elle ne rentrait pas l'enfant là-bas. L'enfant n'avait aucun contact avec l'argent. Il a dit, la première fois que j'ai eu des pièces dans ma main, c'est quand j'avais 9 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'avais 9 ans, c'est son grand-père qui lui avait donné pour Hanouka, Dmei Hanouka. Quelques pièces pour Hanouka. Maintenant, il était tellement désorienté, il ne savait même pas quoi faire avec. Alors il a réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? Et puis il a trouvé une idée. Ah, ça y est, j'ai une idée. Il a dit à ses parents, je voudrais, avec ce qu'il m'a donné Saba, je voudrais donner à la famille Cohen. Et là, ses parents, ils se retiennent au début, puis après ils éclatent de rire. Alors il s'est vexé. Il a dit, mais pourquoi vous riez? Non, mon chéri, ne t'inquiète pas. On ne peut pas vraiment t'expliquer, mais enfin... Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière toute cette histoire? Il se trouve que cette famille, qui ne s'appelait pas Cohen, bien évidemment, hein, mais cette famille-là était la seule famille extrêmement aisée à cette époque. Et le Rav Yaakov Sand, il allait jouer là-bas assez souvent. Maintenant, comment c'est possible qu'il en ait arrivé à la conclusion qu'il veut donner à cette famille, alors que ce sont les seules personnes qui étaient aisées dans cet environnement? Alors, il a dit, mais parce qu'ils n'ont pas pour payer le chashmal, ils n'ont pas pour payer l'électricité. Alors, en creusant davantage, c'est une histoire édifiante. En creusant davantage, qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré que là-bas, si quelqu'un a oublié d'éteindre la lumière, il avait un serment. Mais c'est du gâchis, c'est du gaspillage, il faut éteindre. Tu sais combien ça coûte d'argent, les factures d'électricité? Il dit, chez nous, on nous a aussi appris à éteindre les lumières après qu'on sort d'une pièce. Mais on ne nous a jamais parlé d'argent. On ne nous a jamais dit que c'est du gaspillage. On ne nous a jamais, même pas évoqué le mot kesef. On nous a dit, ben adam mesoudar, tsarich lechabot et taor, afreshi yotze me'acheder. Un homme ordonné, il doit éteindre après qu'il sort d'une pièce. Est-ce que vous captez la différence entre ça et ça? Il dit, là-bas, dans cette maison-là, non mais c'est inimaginable. Et puis il nous a dit plusieurs fois ça, hein, mesdames. Il nous a dit de grâce, pitié. Pour la facture d'électricité, vous ne vous rendez pas compte tout ce que les parents, sans s'en rendre compte, peuvent rentrer comme sensation de manque aux enfants. Pour gagner 30 shekels à la fin du mois, dans l'histoire, je suis très concrète là, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, ne rentrez pas ces notions à la maison. Ne rentrez pas des notions de en kesef lesé. On n'a pas d'argent pour ça. À l'enfant, tu dis ça? Mais c'est vrai qu'on n'a pas pour ça. Tu n'as pas dit lui pas ça. Dis-lui autre chose. Dis-lui non, pour l'instant, on n'achètera pas ça. Yefchar, lo kedai, lo en kesef. Il nous l'a dit. Il était ému quand il a parlé de ça. Parce que les dégâts qui sortent de ça, c'est inimaginable. Il dit la sensation de manque, elle sort de ces choses-là.
Comment rectifie le tir?
On ne parle pas à un enfant d'argent. Moi, je me rappelle, Bémet, que chez nous, jamais j'ai entendu le mot argent chez nous. Jamais. Quand il n'y en avait pas. C'est mes parents qui prenaient la responsabilité de ces choses-là chez Aubry. Ils ne me rentraient pas là-dedans. Comment on veut rentrer un enfant dans des histoires pareilles?
Si par exemple un enfant, il va sur Romain, et que l'eau, elle coule, jamais en Israël, ça se dit.
Alors, Tzarech Lishmor à la main. Tourne la formulation positive. Tzarech Lishmor à la main. ferme. Ou alors ferme tout court.
On ne fait pas
une main de on peut, c'est pas, je ne vous dis pas maintenant, dites ou dites pas. Réfléchissez à la chose, comment vous la sentez. Mais ça veut dire que l'idée, c'est ne fais pas rentrer l'enfant dans des inanimes qui n'est pas assez mature pour les gérer. C'est à toi d'endosser ces choses-là, pas à l'enfant. Donc ce qu'il a appelé l'ambiance financière à la maison, c'est que regardez le paradoxe. Mesdames, je sais, ça soulève toujours des... Le paradoxe, il est comment ? C'est que lui qui a grandi dans une famille, entre guillemets, de standards financiers très, très, très modestes, il a grandi avec une sensation de satiété inimaginable. Et cette maison qu'il décrit, oui, qui était d'Afka au niveau objectif, d'un niveau extrêmement bon au niveau financier, il y avait la sensation de manque. La sensation de manque à travers des choses comme ça. Éteignez, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte la valeur de l'argent. Mais quelle valeur ? De quoi on parle ? On est dans une éducation de Torah ici. La valeur des objets, peut-être qu'on doit faire attention à la propriété des autres, on doit faire attention aux objets qu'on nous confie, d'accord ? Mais l'argent en soi-même, quelle valeur exactement ? Zézouz, ça bouge, c'est fait pour être utilisé. C'est pas fait pour être thésaurisé. Donc, dans l'idée... si vous voulez, c'est comment on prend les choses, comment on présente ces choses-là à l'enfant. Il faut véhiculer à l'enfant qu'il y ait, quelle que soit la situation, ne pas le rentrer dans ces histoires-là. Alors, c'est vrai, il a dit également, dans le livre, il a dit qu'il faut se soucier que l'enfant il soit dans la moyenne de l'environnement. C'est très important. Il a dit qu'il faut être dans la memutsa svira. C'est très important. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a dit kipuach kitsoni zemache ose nezakim vebayot. Un parent qui déciderait de se mettre en marge de la moyenne de l'environnement, il risque de causer après ce qu'on appelle un retour de flamme, que l'enfant il est fou encore plus de ces choses-là. C'est exactement comme dans les familles par exemple qui sont bio, voilà, d'accord, bio anti-mamtaki, c'est la meilleure recette pour rendre les enfants fous des friandises, d'accord. Moi je sais que c'est très drôle, en début d'année au GAN, ils ont soulevé ça, oui les friandises, les machins, je sais, Baruch HaShem, Bliaynara, ils n'ont rien à faire des friandises, parce que moi aussi j'en ai rien à faire. Pas, quand je dis j'en ai rien à faire, ça ne veut pas dire que ça ne m'importe pas, c'est-à-dire que j'en ai pas du tout fait une histoire. De temps en temps ils prennent des friandises, et quand tu les étouffes pas là-dessus, bah de façon naturelle, ils en prennent un peu, et ils s'autorégulent. Mais quand le parent il fait une histoire de ça,
ouais.
Hein, qui poire, comme il a expliqué, kitsoni, une privation extrême, c'est la meilleure recette pour les envoyer devenir des fous de friandises, des fous de... Pareil pour l'argent. Pareil pour tous les domaines.
Juste à partir...
Tout extrême ne donne pas des bons résultats.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.